Streamez tous vos sketchs préférés sur l'appli Rire et Chanson. Des milliers de sketchs en streaming, sans limite, gratuitement, sur les nombreuses radios digitales Rire et Chanson.
Le journal du rire, l'intégrale. Spécial Laura Lone.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast du Journal du Rire. Aujourd'hui, je vous propose d'accueillir une star du rire. Son nouveau spectacle, Glory Alléluia, est un énorme carton. Une création à la fois sombre, trash, mais aussi touchante et surtout hilarante dans laquelle elle se raconte. Dernièrement, Laura Lone était mon invitée dans le Journal du Rire. Si vous avez raté ce moment, voici tout de suite l'intégrale. Salut Laura.
Salut.
Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Rire et Chanson. Je suis très heureux de te recevoir.
Et ben moi aussi.
On va passer cette semaine ensemble sur Rire et Chanson pour parler de toi et de ton nouveau spectacle qui cartonne actuellement en tournée. Alors nous sommes sur Rire et Chanson et donc à la radio, mais j'invite toutefois nos auditeurs tout d'abord à aller sur rireetchanson.fr puisqu'il y a la vidéo de cette interview qui est à découvrir et surtout ils vont pouvoir découvrir cette affiche de ton spectacle Glory Alléluia. On voit des micros dans des trous, Laura.
C'est ça, exactement.
Est-ce qu'on peut expliquer en quelques mots le pourquoi du comment ?
Est-ce qu'on peut expliquer ? Alors, oui, en fait, disons que si on veut expliquer pour les gens qui ne voient pas, il s'agit un peu d'une métaphore, on va dire, pour un glory hall. Voilà, si vous ne connaissez pas, tapez dans Google, vous n'allez pas être déçu.
Non, on va pas faire ça.
et puis voilà, en fait, l'idée c'était un peu de raconter en fait ce spectacle. Je raconte un peu les coulisses du premier spectacle et du coup j'avais envie de raconter finalement ce qui est caché, ce qu'on ne voit pas, et d'où voilà le concept du glory hall ou en fait cette métaphore très poétique.
Qui a eu cette idée au sein de ta production? C'est qui? C'est Jérémy Ferrari, Guillaume Batz?
Non, c'est moi. J'avais fait un petit dessin parce que je me suis dit comment expliquer ça à mes équipes. Donc je vais leur faire un petit dessin et comme ça je leur montrerai, ce sera moins gênant.
Glory Alléluia, c'est le nouveau spectacle de Laura Lone. C'est un énorme succès. Il y a une grosse tournée, j'ai lu, avec une centaine de dates. Beaucoup affichent déjà complet. Ça rassure.
Oui, c'est trop bien parce que c'est vrai que le deuxième spectacle, c'est un gros stress. On se dit, est-ce que le public va continuer? Est-ce que le public sera toujours là et tout? Et là, c'est génial parce que il y a des dates sont complètes des mois à l'avance. Il y a un vrai engouement et je suis trop contente.
Le précédent spectacle a été un énorme succès lui aussi. Tu l'as tourné pendant 5 ans, je crois.
Ouais, c'est ça, 5, 6, 7 ans, si on compte les années où ça marchait pas du tout.
Ouais.
Et du coup, c'est vraiment repartir à zéro, un deuxième spectacle. Le premier avait super bien marché. Et oui, on se dit, est-ce que le public va continuer à être surpris? Parce que maintenant, les gens qui viennent me voir, ils connaissent un peu mon humour. Donc, on se dit, est-ce que, bon, maintenant, ils savent à quoi s'attendre. Ils ont plus la surprise du premier, donc est-ce que ça va quand même encore marcher sur celui-ci? Mais ça va, c'est cool, ils m'ont dit qu'il y avait encore de la surprise.
Ouais, j'imagine que c'est un vrai défi pour un humoriste. Vous nous le dites souvent d'ailleurs, d'écrire le deuxième spectacle. Quand on sort d'un succès, on arrive devant une page blanche et là on se dit, qu'est-ce qu'on va faire?
Exactement. En même temps, c'est beaucoup de stress et en même temps, j'ai tellement joué le premier que j'avais vraiment hâte aussi de passer à la suite. Donc il y avait quand même une envie, j'avais envie de me renouveler, j'avais envie de passer à autre chose. Le premier spectacle, quand j'ai commencé à l'écrire, c'était 7 ans avant la fin de la tournée. Donc en 7 ans, j'ai vécu des choses, j'ai évolué et j'avais envie de parler d'autre chose que ce que j'avais envie de parler à cette époque. Donc du coup, il y avait aussi quand même beaucoup d'envie de changer, de passer à autre chose.
Alors celui-ci, Glory, allez, Alléluia est beaucoup plus personnel puisque tu racontes ton histoire. Je l'ai découvert sur la scène du Casino de Paris, c'était il y a quelques semaines de cela. J'avoue que c'est hilarant, c'est trash, c'est touchant, c'est même bouleversant aussi, on va en parler tout à l'heure. Dans quel état d'esprit tu as abordé l'écriture de ce spectacle, toi Laura?
Alors, je l'ai abordé mais justement donc avec cette envie d'écrire la suite. Et l'envie vraiment d'être plus dans la confidence avec le public en fait. Pendant cette première tournée, j'ai vécu 5 années de succès. C'était trop bien. Il y avait du monde tous les soirs, ça marchait super bien, c'était un vrai bonheur. Et à côté, dans ma vie privée, j'ai traversé des choses un petit peu compliquées. Et du coup, j'avais envie de raconter au public finalement les coulisses de cette première tournée, d'aller vraiment dans la sincérité, de tomber un peu les masques si on veut, et puis voilà, d'aller dans des choses plus intimes.
Alors, on parle de quoi, Laura, dans ce nouveau spectacle?
Alors, donc du coup, voilà, c'est vraiment très personnel, donc je parle vraiment de ma vie. Je raconte, finalement, le déroulé de mon succès, en passant par le début, par Incroyable Talent, les moments où ça a commencé à marcher, la tournée, la rencontre avec le public, les séances de dédicaces, etc. Donc je parle vraiment de ma vie, mais à travers ce fil conducteur, j'aborde plein de sujets d'actualité. Je parle notamment de toute l'affaire MeToo, etc. Je parle beaucoup de handicap aussi, je parle de violence conjugale.
C'est très ancré dans notre société actuelle.
Oui, finalement, c'est assez actuel. Voilà, c'est par le fil conducteur de ma vie, finalement, je parle de choses très actuelles et vraiment de sujets de société, de féminisme, etc. Il y a un peu de tout.
Sur scène, ton personnage est sans filtre, comme dans le précédent d'ailleurs. Elle balance finalement tout ce qu'elle a dans la tête, cette femme. Alors, je me posais la question, est-ce que ce personnage, c'est ce personnage ou c'est Laura, je dirais, qui balance pour contraster ce côté introverti dont tu parlais une fois en interview?
Disons que c'est mon personnage qui prend la parole pour parler de choses dont j'ai envie de parler moi, et qui prend la parole pour le faire d'une façon complètement décalée et d'une façon que je ne ferais pas dans ma vie de tous les jours. Donc voilà, c'est quand même le personnage qui prend la parole pour tenir ses propos assez trash et complètement décalés. Mais derrière ça, oui, il y a une vraie envie pour moi d'aborder tous ces sujets-là, qui sont des sujets qui m'ont touchée personnellement et qui touchent l'actualité aujourd'hui, et voilà, une envie d'aborder tout ça.
Il y a des barrières sur scène. Il y a une ligne rouge en quelque sorte, ou à l'inverse, finalement, tout est possible?
Alors moi, sur scène, vraiment, je me dis vraiment tout est possible.
Parce que tu vas très très loin quand même. Et
ouais.
On se dit, ouais, donc la nana, bon, elle est sans filtre. Est-ce qu'il y a des choses qu'elle s'interdit ou finalement...
Non, et pour le coup, quand j'écris, je me dis vraiment tout est autorisé. Et parfois, j'écris des choses et je me dis, oh là là, ça va être dur de le vendre. Comment je vais faire? Mais en fait, j'ai un peu un côté schizophrène où je me dis non. Là, c'est l'auteur qui écrit, et puis la comédienne se chargera de voir comment on va assumer tout ça sur scène. Il y a un côté un peu schizophrène qui me permet...
Sachant que t'as tout écrit toute seule, je crois.
Oui, pour ça.
Ouais, donc il y a une réunion qui se... des gens qui se concernent dans ta tête, c'est ça?
Exactement, on est plusieurs. On est plusieurs mois. Et du coup, ouais, c'est vrai que... Mais c'est important pour moi, en fait, de me laisser aucune barrière quand j'écris et de pas me dire... qu'est-ce que les gens vont penser, comment les gens vont réagir, parce que sinon, si on commence à se dire ça, on est plus sincère et du coup c'est là qu'on fait plus les choses bien. Donc j'essaie vraiment de me laisser la liberté totale. Et puis après, sur scène, parfois ça m'arrive de me dire bah tiens, cette vanne elle marche pas, ou alors cette vanne les gens ils sont juste choqués et ils rient pas, et ça m'intéresse pas, je veux pas choquer les gens, moi avant tout je veux faire rire les gens. Donc parfois je me dis bon bah là, si les gens ils sont juste choqués, c'est qu'il faut redoser un petit peu, réécrire un peu pour qu'ils arrivent à trouver l'humour, à rire avant d'être choqués, c'est ça qui compte.
Et comment on transforme justement cette matière très sombre, cette matière trash finalement, en riant? C'est quoi la recette? Je sais que c'est compliqué, mais c'est parce que tu pars quand même de sujets très sombres, ouais. Très, très noirs finalement. Pour transformer ça en éclat de rire, ça passe par quoi?
Je pense que la recette, c'est la distance en fait, le fait de ne pas se prendre au sérieux surtout, de relativiser. Je crois que c'est un peu ça qui fait aussi que je fais cet humour-là, c'est finalement, il y a des choses tragiques qui me touchent beaucoup, et c'est de me dire, mais en fait, ce soir, finalement, on est tous dans la merde, mais on va tous en rire, et c'est ça qui me donne envie de créer ce truc un peu fédérateur, de se dire, bah oui, tous ces sujets sont tragiques, mais ensemble, on va finalement créer un truc qui va faire qu'on va tous en rire, on va quand même passer un bon moment, et permettre de relativiser un peu les choses.
Alors Laura, l'envie de faire rire a toujours été présente chez toi. C'était pour contraster, je dirais, le côté réservé et introverti que tu avais?
Oui, en fait, moi, j'ai toujours été plutôt réservée et timide, et je suis pas du tout celle qui va faire des blagues dans la réunion de famille et tout ça. Mais par contre, j'ai toujours admiré les gens qui le faisaient. Donc, j'ai toujours été captivée par les personnes qui prenaient la parole et qui faisaient des vannes et qui faisaient rire tout le monde. Et je me suis dit, c'est fou comme... j'avais envie d'être ces gens-là. Je me suis dit, c'est incroyable d'arriver à générer ça autour de soi. Et j'ai toujours eu envie de faire ça en me disant, moi, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais. Et puis un jour, je me suis dit, allez, finalement, j'essaie, je vais voir ce que ça donne, et puis peut-être ça marchera.
Et alors, ce personnage que tu incarnes sur scène avec cette douceur dans la voix, cette naïveté, ce côté trash, le personnage finalement, il est né comment, lui?
Le personnage, il est vraiment né de moi. C'est-à-dire que je suis montée sur scène avec cette timidité, avec ce côté un peu naïf que j'ai dans la vie de tous les jours, un peu timide, un peu stressée, en m'autorisant tous les petits défauts de voilà, je chipote à ma robe, ou je parle pas forcément, je me tiens pas droite, ou tout ça. C'est né vraiment de me dire, je vais être moi sur scène, d'un point de vue... en tout cas, personnage. Et après, les propos, pour le coup, qui sont complètement décalés avec ça et qui sont un humour qui m'est aussi très naturel, parce que c'est vraiment mon humour dans la vie de tous les jours.
Ça doit être sympa, le quotidien avec Loralone.
C'est-à-dire que je ne fais pas beaucoup de vannes dans la vie de tous les jours, mais quand j'en fais, les gens s'en souviennent.
Alors, je te le disais tout à l'heure, j'ai été très surpris en découvrant ce nouveau spectacle, parce qu'on apprend finalement plein de choses sur toi qu'on est loin d'imaginer. Tu révèles notamment... en toute transparence, avoir le syndrome Asperger, qui est une forme d'autisme, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. J'ai eu mon diagnostic, mais justement pendant la première tournée, il y a 5 ans. Moi, je me suis toujours sentie un petit peu en décalage depuis que je suis toute petite, et j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose sans savoir vraiment mettre les mots dessus. Et c'est un jour un ami qui m'a dit tiens, tu devrais chercher quand même sur le syndrome d'Asperger, ça me parle vachement et tout. Il y a des choses qui me font penser à ça. Au début, je me suis dit parce que j'avais un peu comme tout le monde des clichés sur l'autisme. On connaît pas en fait l'autisme, on se rend pas compte que c'est un spectre très large et qu'il y a des formes d'autisme très invalidantes qu'on imagine, enfin qu'on a souvent en tête quand on parle d'autisme, mais il y a aussi d'autres formes qui sont beaucoup plus discrètes. Et c'est très large, voilà. Donc du coup, j'ai commencé à me renseigner et effectivement, ça m'a parlé. J'ai commencé à faire les démarches pour faire les tests et puis le diagnostic est tombé et ça a été un grand soulagement en fait. Une très bonne nouvelle pour moi personnellement.
Très bonne nouvelle carrément.
Bah oui, parce qu'en fait, finalement, ce diagnostic te donne un peu les clés de ta vie, tu vois. Tu te dis, en fait, depuis que je suis toute petite, je me rends compte que je suis un petit peu différente et je comprends pas vraiment pourquoi et que c'est difficile pour moi. Certaines choses sont compliquées, elles le sont pas pour d'autres. Donc on culpabilise, on se dit, bah c'est pas possible, je suis pas normale et tout. Et puis un jour, on te dit, bah en fait non, si t'es normale, mais juste ton cerveau fonctionne différemment et c'est pas pour ça qu'il fonctionne moins bien. Et c'est très cool comme ça. Ben c'est un grand soulagement.
Laura, aujourd'hui, on va revenir sur quelques dates clés dans ta carrière. En décembre 2017, tout d'abord, tu remportes la 12e édition de la France a un incroyable talent. Avec le recul, je voulais savoir, cette émission, finalement, qu'est-ce qu'elle représente pour toi ? Ça a été quoi ? Un accélérateur de carrière ?
Oui, c'est ça. Ça a été vraiment un accélérateur de carrière parce que c'était une grosse émission, il y avait énormément d'audience. Donc en fait, ça a permis de me faire connaître auprès de plein de gens qui ne me connaissaient pas du tout. Donc ça, c'était trop bien. Et puis d'un autre côté, ça a été surtout pour moi aussi une des premières fois, en tout cas, où un vrai gros média télé me donnait l'occasion de faire cet humour-là sur une chaîne qui est très familiale, qui est très regardée, à une heure de grande écoute. Et moi, j'avais l'habitude qu'on me demandait de faire des émissions et puis on me disait finalement, il faut enlever telle ou telle phrase parce que c'est trop trash. Et moi, je disais, soit je garde comme ça, soit je le fais pas. Et souvent, ça se terminait par, rentre chez toi.
Et là-bas, il y avait zéro censure.
Et là-bas, quand ils m'ont contacté, j'étais tellement habituée à ce qu'on me jette à cause de cet humour qu'elle est trop loin pour eux, que je leur ai dit non. Au début, j'ai dit non, mais c'est pas possible. Je suis sûre que vous allez pas me laisser faire cet humour-là, pas me laisser être moi-même. Et ils m'ont dit non, justement, cette fois-ci, vraiment, on adore ça. Ce sera liberté totale. Et là, je me suis dit, je suis obligée de saisir cette chance parce que c'était tellement rare qu'on me laisse cette chance-là. Et c'était incroyable parce que moi, je me suis vraiment dit, je vais faire une émission et sûrement que le public va trouver que ça va trop loin et qu'ils vont pas me soutenir. Et puis, c'est pas grave, je ferai une bonne émission et j'essaierai de faire un bon passage et ce sera déjà bien. Et je m'attendais tellement pas à ce que ça marche et à ce que j'aille jusqu'en demi-finale, puis jusqu'en finale et puis à gagner par les votes du public. Je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien parce que j'ai eu raison de croire dans cet humour-là et de me dire, c'est un humour quand même fédérateur et qui marche. Et donc, ça a été symboliquement, ça a été aussi pour moi très, très fort.
Puis c'est de là que tout est parti ensuite, puisque tu as enchaîné finalement, même auparavant, tu avais démarré, mais je pense que là, c'est là où la carrière s'envole, comme on dit, quoi, vraiment.
Ouais, c'est vrai que là, le soir même, je jouais à Paris et on m'a dit, c'est complet 6 mois à l'avance. Ouais. C'était fou. Et puis, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. On a rajouté des dates et des dates et on a calé une tournée de presque 500 dates. Enfin, c'était assez incroyable.
Ça, c'était en 2017. Quelques années auparavant, t'avais fait un passage éclair par On ne demande qu'à en rire.
Ah ouais, t'as
avec le recul, bon ou mauvais souvenir?
Alors, bon souvenir parce que c'était quand même une bonne expérience.
T'as fait quoi? Trois passages,
oui,
j'ai noté.
Oui, c'est ça, j'ai fait 3 passages. En fait, moi, ce que je me dis aujourd'hui, c'est que j'y suis allée avec la naïveté du débutant. C'est-à-dire que j'avais jamais écrit d'humour, j'avais presque pas fait de scène. Et donc, aller directement à la télé en direct sur France 2 quand t'as jamais écrit un seul sketch humoristique, c'est un peu du suicide.
Avec cet humour-là?
Avec cet humour-là, ouais, quand même. Oui, c'était déjà cet humour-là, peut-être un petit peu moins abouti, en fait.
À 18h sur France 2, ça devait piquer, quand même.
Ouais, voilà. Ouais. Mais c'était pas très bon, hein, en vrai. Tu peux pas être bon quand tu démarres et que t'as jamais écrit sur ton premier sketch que t'écris pour la première fois de ta vie, c'est forcément mauvais. Donc du coup, voilà, c'était vraiment du suicide, mais en vrai, j'en garde quand même un bon souvenir, même si je suis pas très fière. Ouais. Ces 3 passages.
La musique dans tout ça, aujourd'hui, il y a des projets, des envies de continuer dans ce sens.
Ouais, la musique, moi, c'est vraiment... ça fait partie entièrement de mon univers. Et en tout cas, c'est un biais qui me permet de dire des choses encore différemment. Et c'est une façon d'exprimer que j'adore. Donc, j'ai vraiment envie de continuer. Là, je travaille sur un album qui est en projet. Il n'y a pas du tout de date. C'est vraiment, je prends mon temps parce que je veux essayer de faire un truc vraiment qui me correspond.
Avec des chansons drôles?
Avec des chansons drôles et des chansons pas drôles. Parce que t'as pu voir dans le spectacle, il y avait aussi une chanson pas drôle.
Ouais.
Et ça me parle beaucoup, en fait. J'ai envie d'aller aussi là-dedans. Donc, ouais, c'est en projet. Je suis en train de couver ça. On verra bien ce que ça donne.
Et le cinéma?
Et le cinéma aussi. Moi, le cinéma, j'aimerais trop en faire.
On t'a vu il y a quelques années, il y a 2-3 ans je crois, c'était dans la suite de Dick Henneck.
Oui, dans Lucky.
Lucky, ouais. Aux côtés de Florence Foresti et Alban Ivanov.
Bah ouais, c'était top, j'avais un petit rôle. Mais
il jouait une folle furieuse.
Oui. Complètement, et c'était marrant parce que Olivier, le réalisateur, m'avait dit, mais en fait... écris ce que tu veux, dis ce que tu veux. Nous, on veut juste que tu nous proposes un truc. Et du coup, ouais, j'avais ce personnage de folle qui sortait des horreurs. C'était assez chouette à faire et j'aimerais bien continuer. Là, on me propose des trucs et puis parfois, ça correspond pas vraiment à ce que j'ai envie de faire ou à mon univers ou voilà. J'ai du mal à trouver, mais je préfère prendre le temps et aller vers un truc qui me parle vraiment et puis on verra.
Laura, avant de se quitter, une dernière question. Si demain tout était à refaire, si le parcours professionnel lui était à reprendre, et à recommencer à la case départ. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu changes maintenant ?
Non, je changerai pas grand-chose, si ce n'est peut-être y croire directement, en fait, me poser moins de questions et aller foncer, en fait. Parce que c'est vrai qu'au début, on m'a tellement dit c'est un humour qui est pas fédérateur, qui marchera pas, etc. Et j'ai toujours cru que peut-être que voilà, que ça marcherait. Mais je pense que j'aurais dû directement me poser moins de questions et aller directement droit au but.
On fonce.
Ouais, c'est ça, on fonce.
Glory Alléluia, c'est le nouveau spectacle de Laura Lone à découvrir actuellement en tournée dans toute la France et puis du 11 au 14 janvier 2024. Alors c'est pas tout de suite, tu seras au Folies Bergères à Paris. Faut pas tarder pour acheter ses places parce que c'est complet partout.
Et ouais, ça se remplit vite.
C'est comme les trains à la SNCF, il faut acheter longtemps à l'avance.
Voilà, c'est ça.
Il y a toutes les infos évidemment sur rirechanson.fr. Merci infiniment en tous les cas Laura.
Merci
d'avoir passé cette semaine avec nous, ça va, tout s'est bien passé.
C'était un vrai bonheur, merci beaucoup, avec grand plaisir.
Merci à toi.